Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Albigès et bienvenue dans ce nouveau magazine Comme un lundi du 14 décembre 2020. Au programme aujourd'hui, on va parler pour commencer du journal local et indépendant Saxifrage, un journal autofinancé que l'on peut trouver dans les kiosques du Tarn. Le Saxifrage vient de tomber sous le coup d'une condamnation en diffamation à la suite d'un procès qui les opposait à Didier Sirgue, le gérant du circuit d'Albi. Cette condamnation met en péril la survie du journal et nous entendrons deux membres du comité de rédaction pour avoir plus d'informations sur cette affaire. Ensuite, on vous parle culture avec une exposition que vous pourrez voir ce week-end à Groyer. Et oui, vous avez bien entendu, une exposition en ces temps de disette culturelle, eh bien on ne va pas s'en priver. Et ce sont les plasticiens volants qui sont derrière cette initiative. Nous serons en ligne avec Jean-Philippe Emery, un des porte-parole de la compagnie. Et puis pour finir, on parlera de la programmation du festival Un week-end avec elle qui a été dévoilée la semaine dernière. On écoutera Alain Navarro, président de l'association Arpège et Trémolo. Il nous en a dit plus à l'issue de la conférence de presse qui avait lieu à la Maison de la Musique de Cap Découverte, qui accueillera l'événement du 9 au 11 avril prochain. Et on est en compagnie de Chacha Hiver et Valérie, membres du comité éditorial du journal Saxifrage. Bonjour à tous les deux.
Salut.
Ben, merci de nous accorder quelques petites minutes pour parler d'une situation qui vous touche particulièrement et qui est un petit peu problématique pour ce journal. On va y revenir en détail, puisque le 12 novembre dernier, la cour d'appel de Toulouse vous a jugé coupable donc, dans le procès qui vous opposait à Didier Sirgue, le co-gérant du circuit d'Albi. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'historique de cette affaire à partir du moment où vous avez publié l'article qui est incriminé un petit peu dans ce procès.
Oui, donc c'est une affaire qui remonte à un an et demi à peu près maintenant. À l'époque, en fait, on avait fait un dossier sur le circuit d'Albi, donc qui est implanté sur la commune du Séquestre. Donc, on était allé rencontrer plusieurs acteurs, en fait, on va dire, qui gravitent autour de cette situation. Donc, le maire du Séquestre, Monsieur Poujade, les riverains du circuit, Monsieur Pranière, qui donc était et est toujours élu d'opposition à la mairie. Et on avait aussi contacté la société donc qui gère le circuit DS Events, qui avait pas souhaité nous répondre, ainsi que la mairie d'Albi, qui nous avait répondu qu'elle ne répondait qu'à des journalistes professionnels. Voilà. Donc à partir de là, bon, on a monté notre petit dossier et donc Didier Sirgue, donc co-gérant de DS Events, a été offensé en fait par certains propos qui ont été tenus par Monsieur Pranière dans l'entretien qu'il nous a accordé, et notamment, donc je vais pas refaire tout le procès en détail, mais une partie
les termes précis,
voilà, les termes précis, une partie en fait de l'entretien dans lequel en fait il qualifie les activités en fait des bénévoles, parce qu'il faut savoir qu'au circuit il y a une association de bénévoles en fait qui travaille et qui œuvre lors des événements qui sont organisés par DS Events. Et donc Pascal Pranière a considéré, c'est ce qu'il a raconté dans le journal, que c'était pour lui du travail dissimulé. C'est-à-dire que pour lui, c'est le qualificatif qu'il a employé, hein, travail dissimulé, des bénévoles qui œuvrent,
pour une entreprise privée.
Exactement, pour une entreprise privée, c'est ce qu'il considère être du travail dissimulé. Donc c'est sur ce terme-là, donc la citation après était un peu plus longue, je ne l'ai plus complètement en tête, mais c'est sur ce terme-là en fait, qu'on a été condamné. Il y avait quatre passages en fait, qui étaient incriminés, c'est celui-là que, en fait, qui a été retenu, que ce soit du coup donc, lors de la première instance, et lors de la deuxième, c'est-à-dire lors de l'appel.
De l'appel, oui.
Voilà.
D'accord.
Donc, l'appel a confirmé que pour avoir publié ces propos-là, on était coupable de diffamation.
Et donc, du coup, pour revenir peut-être un petit peu en détail sur ce dont vous avez écopé, parce que donc, vous l'avez dit, il y a eu une première condamnation, vous avez fait appel en espérant bah, du coup, pouvoir emporter le deuxième passage devant des juges, et malheureusement, ça n'a pas marché pour vous. Et donc, là, au total, vous avez écopé de quoi? C'est quoi l'amende et ce que vous avez à payer?
Là, au total, à la fin de l'appel, on a écopé d'une amende et de dommages et intérêts à donner à M. Sirgue. Et en plus de ça, on a des frais d'avocat. Voilà. Donc c'est l'amende tourne autour de 1 000 euros, 500 euros à peu près de frais de dommages et intérêts. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est ce qui nous incombe, mais on a été condamné solidairement avec M. Pranière, donc il doit aussi payer une amende de 1 000 euros et 500 euros de frais de dommages et intérêts à M. Sirgue. Donc voilà, les sommes sont partagées. Et ensuite, on a, pour toute cette procédure, 6 000 euros de frais d'avocat à payer prochainement.
Voilà. Okay.
Ce qui fait une somme qui est relativement importante, puisque on a fait un petit calcul, ça correspond grosso modo à 2 ans et demi de fonctionnement et à une dizaine de numéros. pour donner une idée un peu au lecteur de ce que ça représente pour un petit journal comme le nôtre. C'est 2 ans et demi de travail.
Oui, parce que justement, avant d'allumer les micros, on se demandait si vous n'étiez pas justement le seul journal, au moins physique dans le Tarn, qui est édité de cette manière, indépendant et autofinancé. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus au niveau de votre organisation ? Qui c'est qui collabore à Saxifrage, sans forcément donner tous les noms, mais c'est des personnes issues de quel milieu et comment vous faites pour vous autofinancer ?
Ben, en fait, bon, sur la question de qui fabrique, comment est fabriqué Saxifrage, il y a un comité qui est relativement restreint. Hein, d'ailleurs, c'est un comité qui, des fois, on est 4, des fois, on est 5, ça dépend des moments, mais en tout cas, on n'est pas beaucoup. Au comité autour duquel vont graviter, en fait, des contributeurs extérieurs, que ce soit pour la photo, pour le texte, mais aussi, par exemple, pour réaliser le maquettage. On fait appel à une amie, en fait, qui fait ça aussi bénévolement. La question exactement.
Comment ça fonctionne, qui fait partie de tout ça et comment vous réussissez à vous financer pour sortir un journal physique à cette période.
Le financement, c'est les ventes.
Okay.
Dernièrement, en fait, c'était les dons, mais en fait, c'était dans le cas un peu particulier, du procès. Mais de façon générale, dans notre fonctionnement, en fait, on se finance sur nos ventes. Mm-hmm. Pour compléter un peu ce que disait Chacha Iver, en fait, c'est pour faire un numéro, on a besoin de 800 € à peu près pour l'impression et l'envoi postal. Donc, à partir du moment où on a récupéré ces 800 € via les ventes, on est capable de produire le numéro suivant. Okay. Mais ça ne va pas plus loin que ça. On n'a pas besoin de financement outre l'impression et l'envoi postal. Tout le reste se fait, c'est du bénévolat. Dur.
Le Saxifrage existe depuis 5 ans et jusqu'à présent, on n'a jamais eu de problème pour financer le journal, puisqu'en fait, c'est parce qu'on va vendre des numéros qu'on va récupérer une trésorerie qui nous permet de préparer le numéro suivant. Donc en fait, c'est un fonctionnement qui roule et tant qu'on a des lecteurs, et jusque-là, il n'y avait pas de problème, enfin, il n'y en a toujours pas, tant qu'on a des lecteurs, le Saxifrage peut paraître et se développer. Là, la situation qui nous met en difficulté, c'est le fait qu'on ait d'autres sommes à débourser pour des choses. Qui d'une part rapportent pas non plus d'argent et qui sont énormes en fait comparativement aux sommes qu'on met en jeu à chaque sortie et sur une année totale quoi.
Et donc du coup c'est aussi pour ça qu'on en a parlé encore, mais vous avez lancé une petite cagnotte pour soutenir le journal, et parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, j'ai l'impression que votre survie est un peu en danger parce que 2 ans de publication, ça fait beaucoup, et donc comment on peut faire pour vous soutenir, c'est quoi les méthodes possibles si on veut un petit peu soutenir Saxifrage?
Déjà, c'est vrai qu'on a déjà fait appel plusieurs fois à la solidarité des lecteurs, hein, puisqu'on avait déjà fait une première cagnotte lors du premier procès, qu'on a organisé en début d'année dernière une fête de soutien, qui avait permis de récolter des fonds pour payer en fait les factures d'avocats principalement, puisque entre les deux procès, les amendes elles étaient suspensives, donc on doit les payer maintenant qu'on a été condamné, mais entre les deux, on n'avait pas encore besoin de les payer. Donc voilà, ça a permis de payer un certain nombre de frais. Mais on a de nouveau créé une cagnotte, puisque la situation sanitaire fait qu'on a peu d'autres possibilités. On aurait pu imaginer organiser une autre fête de soutien, aller vendre le journal sur les marchés, diffuser chez plus de personnes. Mais tout ça, actuellement, est un peu limité. Donc on a effectivement créé une nouvelle cagnotte sur Hello Asso. Qui est facile à retrouver en tapant dans la barre de recherche. Une fois qu'on est sur le site de Hello Asso, on tape Saxifrage. Et on a la possibilité de contribuer et soutenir les parutions des prochains journaux aussi.
Okay. Et en plus, il me semble que Hello Asso est le seul site qui ne prend pas de marge sur ce que donnent les gens. Et ils demandent aux gens s'ils veulent participer à la maintenance du site.
Ils mettent une marge par défaut qu'il faut désactiver, mais qui est désactivable. Hein. Voilà, ce qui n'est pas le cas des autres sites, effectivement, de ce type. Ouais.
Après, il y a un autre moyen de nous soutenir aussi. Hein. Bien sûr, il y a la cagnotte, mais on peut nous soutenir en s'abonnant tout simplement au journal. L'avantage de l'abonnement, c'est que quand le journal sort, on vous l'envoie directement chez vous, dans votre boîte aux lettres. Ce qui nous permet, nous, d'assurer un certain nombre d'exemplaires, qu'on est assuré de les diffuser, et puis pour vous ça arrive directement chez vous. Donc voilà, on a cette possibilité là aussi pour soutenir le journal.
L'abonnement, c'est une sorte de don avec contrepartie, quoi.
Oui,
en fait, c'est aussi simple que ça. C'est plutôt que de juste donner et de pas recevoir en retour, Ça revient au même que de données, finalement.
Et c'est le principe d'un journal, en plus, c'est quand même cool de pouvoir le recevoir.
Donc
en
après,
plus dans la boîte.
Il y a ceux qui sont déjà abonnés et qui, effectivement, pourront simplement donner plus, entre guillemets. Et puis, voilà, l'abonnement, c'est surtout intéressant pour ceux qui éventuellement ne connaissent pas, qui l'achètent déjà, mais au numéro, par exemple, et puis qui aimeraient le recevoir chez eux, surtout avec les temps qui courent, voilà, pour être sûr de pouvoir le trouver. Bon, voilà, c'est intéressant comme biais aussi pour nous soutenir.
Une belle idée cadeau pour les fêtes.
Ouais.
Exactement.
Offrez des abonnements à Saxifrage autour de vous.
Et la collection complète.
C'est ça. Vous allez sortir des best-of comme ça?
Non, pas des best-of, mais sur le bulletin d'abonnement. Ouais. En fait, bon, il y en a un bulletin d'abonnement qui est accessible sur le site. Et on peut tout à fait commander d'anciens numéros, demander, voilà, si... bon, il y a le numéro 1 et le numéro 2 qui sont écoulés. Il n'y en a plus. Mais à partir du numéro 3, on peut tout à fait dire, par exemple, moi, je veux la collection complète jusqu'au dernier numéro. On le mentionne sur le bulletin. Et puis, on met évidemment le prix en conséquence. Hein. Je ne sais plus combien, mais je crois que c'est 1 euro le numéro. Enfin, les anciens numéros sont à prix, prix réduit. Voilà, c'est un truc qui est possible.
Ok. Et donc, du coup, où est-ce qu'on retrouve toutes ces infos, ce dont on est en train de parler si les gens qui nous écoutent sont intéressés pour s'abonner, tout ça, comment on fait pour y avoir accès?
Le plus facile, c'est d'aller sur le site internet du journal, donc saxifrage.fr.
.fr au singulier, Saxifrage.
Saxifrage, voilà, au singulier. Donc sur le site où en plus on peut retrouver un certain nombre d'articles qui sont en consultation libre. On a aussi des articles qui ne sont pas forcément parus dans des journaux, notamment pendant le premier confinement au mois de mars. On a continué à écrire sans imaginer pour autant faire paraître ces articles dans le numéro. Et voilà, à la fin, on a fait une sélection. Un certain nombre sont sortis, qu'on a fait paraître dans un hors-série même. Et puis, il y en a d'autres qui sont uniquement consultables sur le site. Et après, on a une page Facebook aussi, sur laquelle on peut avoir les principales informations de sortie de journal ou présence sur un marché, ou notamment retrouver le lien de la cagnotte. Et donc là, c'est aussi la page Facebook, c'est Journal Saxifrage.
Ok. Eh bien, merci pour ces infos. Et donc, on peut aussi vous retrouver dans quelques maisons de la presse, quelques kiosques dans le Tarn. Est-ce que vous avez une liste de tous les points de vente physiques?
Sur le site, on a une liste de points de dépôt.
Okay.
Et je sais de mémoire que sur Albi, on est plutôt... je parle d'Albi parce que voilà, on est sur Albigès, mais on est plutôt bien distribué, notamment dans certains bureaux de tabac.
Okay.
Je n'ai pas des noms parce que je ne vais pas commencer à donner un nom, je vais devoir donner tous les autres.
Oui, mais je comprends.
On peut aller voir sur le site, trouver tous les points de dépôt. Il commence à y en avoir pas mal sur Albi. Ouais.
Mais on capte Albigès aussi jusqu'à
mais
Carmaux,
mais oui,
figurez-vous.
Pardon.
Et même à la limite de Gaillac quand ça ne grésille pas
trop. C'est vrai.
Mais on peut retrouver tout ça sur saxifrage.fr.
Ouais.
Et alors j'avais peut-être juste une question parce que ce jugement quand même il me semble assez dur. Et puis vous le dites dans l'article que vous avez publié justement en conséquence à une époque où on parle de la liberté d'expression officiellement et qu'on met quand même des procès en diffamation pour un journal. Est-ce qu'il y aurait eu une manière pour vous ou quelque chose pour vous prémunir de ce genre de procès en diffamation au moment où vous avez publié l'article? Est-ce que vous auriez pu faire quelque chose pour éviter ça? Est-ce que la loi française, si vous avez juste mis des propos de quelqu'un dans un journal en disant selon lui, normalement, c'est pas quelque chose qui est passible de diffamation. Est-ce qu'il y aurait pu avoir...
C'est une très bonne question. Quel est le biais? Quelle est la bonne chose à faire pour éviter ce genre de problème? On en a un petit peu discuté. On s'est demandé à un moment donné s'il aurait suffi tout simplement de mentionner explicitement dans l'article qu'on avait bien contacté les acteurs qui se sont sentis diffamés, c'est-à-dire la société DS Events.
Oui.
Ce qu'on a fait en fait, mais sauf que comme c'était un coup de téléphone, bon, mais c'est nulle part. Il y avait la preuve de ce coup de fil. Pareil pour la mairie. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire exactement pour éviter ça? Je sais pas. Nous, c'est une décision que évidemment on accepte en tant qu'élément de la justice, mais après sur un plan purement moral, on continue de la contester, on continue d'être scandalisé par cette décision parce que on estime qu'un élu, quelque bord que ce soit, a le droit de porter un jugement, une interprétation, de donner des qualificatifs sur des situations qu'il analyse, qui concernent la collectivité, parce qu'il faut vous rappeler quand même que le circuit appartient à la collectivité, mm-hmm. C'est une délégation de service public, donc le circuit n'appartient pas à Didier Sirgue. Et je rajoute, c'est parce que ça va un peu dans ce sens-là, et ça fait partie pour nous un peu du scandale, la cour d'appel, en fait, dans son son, je sais pas comment on appelle ça, dans son rapport, enfin dans l'arrêté, ouais. Voilà, qu'elle a rendu, a clairement dit en fait que elle retenait la décision donc du tribunal de première instance parce que les commentaires que faisait M. Pranière portaient sur l'activité d'un acteur privé. Et donc, en quelque sorte, dépasser presque, sortait en quelque sorte du cadre ou des droits presque que pourrait lui conférer son statut d'élu. Donc là, il y a quelque chose un petit peu, il y a une, pour nous une certaine forme d'ambiguïté, puisqu'on est quand même dans le cadre, je le redis, mais d'une DSP, donc avec des équipements qui sont réputés publics.
DSP, bien que, c'est donc délégation DSP, de service public.
Voilà, c'est une délégation de service public, hein, c'est quand la collectivité délègue à un privé la gestion d'une infrastructure ou d'un service. De façon générale. Et donc, il y a toute cette ambiguïté où à la fois c'est une infrastructure publique, donc où on se dit que, ben, qu'un élu a toute sa place pour pouvoir dire, ben voilà, moi je trouve que ça c'est normal, que ça c'est pas normal, je considère que ça, ben, on peut le qualifier comme ci, ça on peut le qualifier comme ça. Et en même temps, comme c'est géré par un privé, il y a une sorte de barrière que la Cour d'appel du coup a confirmé, hein, et qui l'empêcherait, qui nous empêcherait de porter ce genre de jugement à leur encontre. Voilà.
Il me semble qu'une des choses qui se fait en général dans ces cas-là, c'est que la personne incriminée peut demander un droit de réponse. Est-ce que vous avez été contacté pour demander un droit de réponse de...
Absolument pas. Et c'est quelque chose d'ailleurs que des, j'allais dire des confrères, mais enfin, d'autres médias qui nous ont répondu, qui nous ont apporté leur soutien, nous ont fait remarquer. C'est qu'à aucun moment, d'une part, on nous a demandé de retirer... Alors, je ne voudrais pas tendre le bâton pour nous faire rebattre, mais à aucun moment, d'une part, on nous a demandé de retirer... d'internet, parce que c'est un article qui est aussi consultable sur notre site internet, hein. l'article incriminé, donc d'une part, et d'autre part, jamais on nous a obligés à publier dans nos colonnes, comme c'est en général, on a un coutume de le faire dans ce genre de situation, une déclaration, alors soit de Didier Sirgue lui-même, soit de son, de son conseil, de ses avocats, pour rétablir en quelque sorte, entre guillemets, leur propre vérité. Ouais. Ça n'a jamais été fait. Donc finalement, toute cette affaire, à la fin, c'est une sorte de transaction financière qui, évidemment, n'est pas à notre avantage. Hein, puisque nous, en quelque sorte, sur un plan moral, ben, gagner, perdre, c'est aussi un peu pour ça qu'on est là pour discuter de ça. C'est gagner, perdre, j'allais dire, c'est un peu le jeu. C'est-à-dire on avance des choses, on a fait le choix de publier cet entretien-là. Bon, ben, on perd devant la justice. La justice porte son jugement. Mais il y a cet aspect financier qui est quand même pour nous le second scandale, le double scandale, hein, qui fait que en fait pour simplement avoir dû se défendre d'avoir publié ses propos, on est aujourd'hui quasiment en banqueroute, hein, et d'un point de vue purement financier, presque purement technique, hein, presque empêché de pouvoir continuer à faire exister ce journal. Donc suspendre comme ça la vie d'un journal, quand on voit en plus aujourd'hui au niveau de la presse écrite l'homogénéité en fait du paysage, hein, suspendre la vie d'un journal un peu alternatif comme ça, un petit peu un peu plus frais quand même que peut-être ce qui se fait de façon générale, quoi, à cette décision là voilà, avec de telles sommes en jeu. Bon, voilà, pour nous, tout ça, ça nous scandalise profondément. On trouve qu'effectivement, comme tu disais tout à l'heure, hein, cette période de liberté d'expression, on ne se sent pas très défendu, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà.
C'était moi qui l'ai dit, mais je reprenais les propos de votre propre article publié juste à la suite de ce jugement, mais que je trouvais quand même une analyse plutôt pertinente, en tout cas. Ben, merci beaucoup à vous, Chacha Hiver et Valérie. Donc, vous êtes membre du comité éditorial du journal Saxifrage. Et on rappelle donc que tout ce dont on vient de parler, ça vous a touché et que vous voulez aussi continuer à pouvoir lire un journal indépendant et autofinancé dans le Tarn, bah, n'hésitez pas à aller les soutenir. Donc sur la cagnotte, il y aura toutes les informations sur le site saxifrage.fr et sinon sur Hello Asso, vous recherchez Saxifrage et vous devriez pouvoir trouver tout ça. Abonnez-vous et abonnez les gens autour de vous pour les fêtes, c'est un beau cadeau.
Merci
beaucoup à vous et bah, une prochaine fois sur les ondes de Radio Albigès.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Toujours branché sur Radio Albigès, tout de suite on écoute Amnésie Internationale, un titre issu du dernier EP du groupe Lux Baffon, et on revient pour la suite de ce magazine. Lux Baffon avec Amnésie Internationale, un titre issu de leur dernier EP du même nom sorti il y a quelques semaines et que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes.
Comment allez-vous ?
Ma foi, comme un lundi, frais dans la matinée, soleil l'après-midi, la recette des sports d'hiver réussie.
Toujours dans votre magazine Comme un lundi sur Radio Albigès, et tout de suite on vous parle d'un événement qui aura lieu ce week-end à Groyer, et c'est organisé par la compagnie des plasticiens volants. Nous sommes en ligne avec Jean-Philippe Emery, bonjour à vous.
Et bonjour Paul.
Vous êtes porte-parole de la compagnie des plasticiens volants, donc une compagnie qui a été créée en 1976 et qui est installée depuis 20 ans à Groyer maintenant dans le Tarn. Alors on vous connaît pour vos spectacles qui mettent en scène des grandes structures gonflables et illuminées dans les airs. Sur Albi, on avait pu vous voir notamment la création sur Léonard de Vinci lors de la Nuit Pastel, c'était il y a 2 ans déjà. Donc là, ce week-end, les 19 et 20 décembre prochains, vous proposez votre grand déballage à Groyer. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous allez proposer au public ce week-end ?
Oui, alors, en fait, depuis mars, on ne travaille plus. On n'a plus le droit de sortir dans la rue et les gens eux-mêmes n'ont pas le droit de se balader pour voir des spectacles. Enfin, bref, tout ça est bloqué. Mm-hmm. Le théâtre de rue est bloqué depuis, ça va faire 9 mois et donc, on est complètement à la ramasse, mais on a plein d'envie encore, et puis on a envie de montrer que malgré tout, on est toujours là, et que malgré la situation complètement catastrophique, on veut montrer des choses aux gens, on va dire, comme on dit, dans le respect des règles sanitaires. C'est-à-dire qu'on va faire une grande expo dans la ville de Groyer, les 19 et 20, on va multiplier les lieux d'exposition, on va faire une dizaine, une douzaine de lieux qui vont être occupés, habités par nos créatures gonflables, par nos grands décors et par voilà. Donc on va mettre de la couleur, on va mettre un peu de vie inessentielle dans la ville.
Oui, je comprends la référence malheureusement. Parce que du coup, que vous appelez ça une exposition, mais c'est quoi du coup qui va différer avec les spectacles que vous proposez habituellement ?
Eh ben parce que ce sont ces fameuses règles sanitaires qui nous interdisent de jouer avec le public. Donc parce que si on joue avec le public, si on propose des textes, si on fait tout, si on utilise le moindre de nos outils qu'on utilise justement pour produire du spectacle. Mmh. Dans la rue, alors on risque de provoquer un attroupement et dans ce cas-là, ce sera interdit.
Oui.
Donc, on veut proposer aux badauds, puisque les gens peuvent passer, pas trop s'arrêter, mais peuvent passer. On veut proposer nos personnages, nos décors, qu'on animera sur place, qu'on bougera dans la mesure, voilà. Mais on n'a pas accès à tous les outils auxquels on aurait le droit habituellement. Donc, c'est un challenge qu'on lance. On le fait de manière gratuite. On est aidé bien sûr par la mairie. On a eu une reconnaissance la première fois depuis que la compagnie existe, une reconnaissance du département et des instances, parce que là il a fallu aller taper à la porte des institutions pour leur faire comprendre que notre situation était totalement catastrophique. Mmh. Mais c'est pas ça évidemment qui nous fera vivre. Mais cette idée de reconnaissance et d'une petite aide financière, elle est quand même essentielle quand même. Mmh. Et en tout cas, sur ce coup-là, nous, on se paye pas. On n'a pas. On offre ça. On offre ça aux gens de la ville de Groyer, à toutes les personnes qui veulent passer. On en a marre de rester sur les starting blocks, à faire des projets uniquement sur papier, au téléphone, des zooms, des je ne sais quoi. Non, on veut du pour de vrai, en fait.
Et oui.
Je refuse complètement le terme présentiel. Nous, on veut du pour de vrai. Alors, on peut pas toucher. On peut pas toucher les gens. On peut pas encore, les approcher avec nos gonflables. Retrouver cette magie-là, mais on essaie de rétablir un contact, l'étincelle.
Oui. Bah, vous pouvez les toucher pas physiquement, on va dire, mais autrement par les expositions, par le rêve absolument. Un petit peu que vous proposez. Ça touche d'une autre manière en tout cas. Et du coup, alors on enregistre cet entretien, là on est le 11 décembre, alors du coup on a encore eu des annonces hier soir, et donc ben, on se rend compte un petit peu hein, que la culture est encore une variable ajustable un peu dans la politique du gouvernement par rapport à cette crise, puisque normalement, ben, par exemple, les théâtres, les salles de cinéma auraient dû réouvrir le 15 décembre, et puis bon, c'est encore prolongé de 3 semaines, et puis on ne sait pas encore pour combien de temps. Qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de tout ça? Comment vous vous ressentez en tant que qu'artisan du spectacle par rapport à toutes ces annonces qui sont faites et cette impression que la culture est un peu reléguée au second plan, quoi.
J'ai mon avis personnel là-dessus, mais là, en l'occurrence, par rapport à la compagnie, je dirais que on guette tout ce qui pourrait être une ouverture, aussi minime soit-elle, pour qu'on puisse proposer des choses et qu'on puisse bosser. C'est évidemment une catastrophe, quoi. Et bon... le gouvernement, il navigue à vue parce qu'il a les chiffres au fur et à mesure, les chiffres, bon, bref. Mais nous, on imagine quelque part dans l'année prochaine, qui se rapproche, heureusement, assez vite. Mm-hmm. On imagine une reprise, mais quand, voilà. Et le quand nous demande de patienter financièrement, de patienter nerveusement, et même dans les projets, parce que on a pas mal de contacts avec des gens qui seraient intéressés par nos prestations. Mm-hmm. Mais eux font leur boulot, évidemment. Ils peuvent pas dire, la situation fait qu'il peut rien se passer. Donc, mon boulot de programmateur, je peux pas le faire. Je le fais pas. Non. Tout le monde fait comme si. Donc, on avance en faisant comme si. On avance en disant, si jamais on peut faire quelque chose en février, alors peut-être qu'on pourrait tenter quelque chose en février. Si on peut faire quelque chose en mai, voilà. Donc, on fait des projets, on écrit des trucs, on gamberge, on est vraiment là-dedans, et heureusement, parce que c'est ça, quelque part, qui nous tient. C'est ça qui nous tient, c'est de se projeter, voilà.
Mais du coup, réussir à se projeter, c'est faire comme si tout allait finir un jour par s'arranger. On est obligé de le faire parce qu'il faut y croire, hein, forcément, pour avancer. Mais au niveau de la santé de votre compagnie et puis comme d'autres acteurs et actrices du secteur culturel, est-ce que vous avez été fortement impacté? Est-ce que vous pouvez continuer à tenir comme ça longtemps? Ou est-ce que, à un moment, comme d'autres associations, malheureusement, il y en a qui ne vont pas survivre, quoi?
Ouais, non, pas très longtemps, parce que assez vite, lors du premier confinement, à la suite du premier confinement, on a eu un emprunt des garanties par l'État. Mm-hmm. Mais ça nous emmène quelque part en 2021, on sait pas exactement où, mais si ça reprend pas d'ici là, quoi, on est mort, bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est clair.
Eh bien, on va continuer à espérer, alors. En tout cas, on va prendre plein les yeux, en tout cas, ce week-end, puisqu'on rappelle que donc, c'était pour ça qu'on était en ligne avec vous. Je rappelle Jean-Philippe Lurie, oui. Vous êtes porte-parole de la compagnie des Plasticiens Volants. Et, ouais. Et donc, est-ce que vous proposez un spectacle dans les rues de Groyer sur 2 jours, alors, ce week-end, les 19 et 20 décembre?
Je le redis encore une fois, c'est pas un spectacle.
Oui.
Faut pas l'appeler comme ça, parce que c'est pas vrai. C'est une expo, mais c'est une expo multiple dans la ville. Donc, à vous de, vous aurez sur place un plan des différentes expos. Ça va vous permettre de faire tout un parcours dans la ville pour aller de l'une à l'autre, de retrouver ces énormes bestioles coincées au hasard des bâtiments, au hasard des places, au hasard des parcs. Et vous allez quand même pouvoir en prendre plein les yeux. Faut pas. Ça pour nous c'est important. Et puis on sait aussi que les gens ont envie de voir des choses. Des choses qui les sortent de ce quotidien, leur mettre un peu de rêve quand même. Il y aura également, pardon, je me permets de rajouter ça, il y aura tous ces points d'exposition, les places, les lieux, un peu certains cachés, un peu d'autres en évidence avec nos personnages, avec nos décors. Mmh. Et il y aura également la salle du Foulon, qui est l'ancien auditorium à Groyer. Il y aura une chouette expo des photos, de la vidéo, un travail assez remarquable qui accompagne nos spectacles. Et vraiment, là, ça, c'est un truc très chouette aussi, une très belle expo à voir.
Ok.
En même temps.
Ben, merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors, est-ce que vous avez peut-être un site internet à nous donner ou un lien sur les réseaux sociaux pour retrouver toutes ces infos?
Oui, alors tous les jours en ce moment, on met à jour un calendrier de l'avant grand déballage sur la page Facebook Compagnie Plasticien Volant. et on pose des petites questions, on fait des énigmes avec des photos de gonflables comme vous en avez jamais vu. Et on va faire ça jusqu'au 19. Okay. Donc là, vous trouverez des infos, il n'y a pas de problème. Ça autrement, il y a le site, hein, de toute façon, aussi, site des plasticiens volants.
Ok, oui, si on recherche ça sur les moteurs de recherche, compagnie des plasticiens volants, on devrait trouver assez facilement. Ben merci beaucoup à vous, Jean-Philippe Emery, pour la compagnie des plasticiens volants. Et rendez-vous donc ce week-end, les 19 et 20 décembre, à Grouillé, pour l'exposition Le Grand Déballage. Et donc, en attendant.
De 11h à 17h30.
De 11h à 17h30. C'est noté. Ouais. Ben merci beaucoup à vous. Et puis, ben, très bonne continuation à vous. Et puis, on pense fort à tout le secteur culturel. Donc, en continuant à garder espoir. Voilà. Puisque, puisque c'est ce qu'il faut.
Merci. On prend. Il n'y a pas de problème. À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Wow, c'est comme un lundi sur Radio Albitzis.
C'est lundi, ouais, les midis. Les parents sont rentrés en criant. Faut manger après travailler.
Toujours branché sur Radio Albigès, à l'écoute de votre magazine Comme un lundi du 14 décembre 2020. On continue dans le domaine de la culture avec le festival Un week-end avec elle. La programmation a été annoncée la semaine dernière et nous avons rencontré Alain Navarro pour en parler. Une interview réalisée en collaboration avec Clémentine Bancarel de Air d'Otan.
Et on est donc ici à la Maison de la Musique à Cap Découverte, juste après la conférence de presse qui a annoncé donc la programmation du festival Un week-end avec elle. Et on est en compagnie d'Alain Navarro. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Alors Alain Navarro, vous êtes toujours le président de l'association Arpège et Trémolo qui organise ce festival. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur cette programmation que vous venez d'annoncer là à l'instant ?
Oui, en fait, l'idée c'est vraiment de se retrouver très rapidement dans le spectacle, et le week-end avec elle va arriver vite, du 9 au 11 avril. Alors on a pris une option, c'est celle du coup d'être dans un format réduit pour rassurer tout le monde, et puis peut-être parce que c'est le plus pertinent aujourd'hui. Donc on sera sur un format 350 à la salle, à la Maison de la Musique, à la place de 700. Mais du coup, on y croit et on a du coup proposé une programmation très haute en couleur avec de beaux artistes, un hommage à César Evora, Flavia Coelho, Ayo. Mais du coup, une place forte ici avec une grande convivialité, des repas. On veut vraiment que ce soit un moment de rendez-vous, un moment de rencontre avec le public, avec les artistes, qu'il y ait le maximum d'échanges. Et puis par ailleurs, on va aussi se déplacer. On va aller, par exemple, en Octambule avec Solenia le samedi 10 avril à 16h. Le matin, il y aura des lectures de Claude Fèvre à la maison, à la médiathèque de Puyrouzon, et le Café Flo aussi, qui est un endroit qu'on découvre pour la première fois avec...
C'est un nouveau lieu que vous investissez, là, le Café Flo.
Oui, tout à fait, c'est un lieu associatif, donc on aime bien l'esprit qui se dégage de ce lieu-là, et l'idée c'était, avec un partenariat avec l'Oiseau Lyre Compagnie, de proposer de jeunes découvertes, et avec Lise Martin et Pyris qui sont là, avec son violoncelle et des beaux textes à nous proposer. Ça sera gratuit, ça sera le dimanche 11 avril à partir de 11h. Pour ces spectacles hors Maison de la Musique à Cap Découverte, on sera sur des moments gratuits, effectivement.
L'Oiseau Lyre Compagnie, ils proposent Chantons sous les toits. C'est la première fois que vous tissez des liens avec eux, ou ça avait déjà été fait ?
En fait, on travaille avec l'Oiseau Lyre Compagnie depuis longtemps. Que ce soit d'ailleurs dans le festival des petits bouchons qu'on a abandonné l'an dernier, mais on faisait tous les concerts chez les vignerons avec l'Oiseau Lyre Compagnie. Et après, régulièrement, oui, on fait en général, habituellement on faisait jusqu'à 6-7 concerts ensemble par an. Bon, là on sera sur quelque chose d'un peu plus réduit, on sera sur 2 concerts, mais on imagine aussi comment on peut éventuellement travailler aussi avec l'Oiseau Lyre Compagnie, pourquoi pas sur Pause Guitare et sur le Bol d'Air.
Il y a la volonté aussi là, dans la programmation au week-end avec elle, de garder aussi une petite représentation de la scène locale, quoi.
Oui, tout à fait. Mais avec ces deux artistes qu'on retrouvera au Café Flo, et puis Claude Fèvre qui anime un blog depuis quelques années sur la chanson, le texte. Voilà, c'est la meilleure personne pour venir nous faire une lecture autour d'auteurs, compositeurs qu'on aime beaucoup. Et donc c'est toujours intéressant de revisiter les textes. Sonenia, c'est aussi deux sœurs qui sont de la région Occitanie, de la région de Toulouse, qu'on retrouvera donc au café au Noctambule le 10 avril.
Et du coup, peut-être juste pour revenir un peu sur l'état d'esprit dans lequel vous êtes, dont vous parliez à la fin de la conférence, vous gardez espoir, ça va se faire, et vous décidez de faire les choses, quoi qu'il se passe un petit peu.
Oui, en fait, nous, on est vraiment convaincus que les formats qu'on a choisis sont des formats qui seront tout à fait ceux qu'on retrouvera au moment de nos événements. Je crois qu'au mois d'avril, on sera sur un format réduit en tout assis, avec de la distanciation, sur un siège sur deux, c'est tout à fait ce qu'on avait avant le confinement. Sur Pause Guitare, on est aussi sur quelque chose de tout à fait envisageable. Le 5000, c'est ce qui avait été la première jauge acceptée au mois de mars l'an dernier, puis au mois de septembre, quand les choses sont un peu relâchées. Donc du coup, on travaille sur quelque chose dont on est convaincu que ça va pouvoir se faire. Et on a vraiment hâte de retrouver le public. Et puis c'est vraiment une mission qu'on doit avoir par rapport aux artistes, aux intermittents. Il faut absolument que tout le monde se retrouve sur ses projets, sur son travail, sur ce qu'il sait faire, et pas être dans cette situation comme on vient de le connaître, sur une année blanche. Il n'y a rien de pire à vivre pour qui que ce soit, que ce soit pour un artiste, un intermittent ou pour une équipe comme la nôtre.
Est-ce que l'RPG Trémolo, là, on parle d'un état d'esprit, mais il y a aussi tout un aspect financier. Tout à l'heure, Christophe Ramon a évoqué des aides qui ont été apportées aux associations. Mmh. Est-ce qu'il y a quand même une prise de danger financier par l'association RPG Trémolo?
Oui, n'importe comment, le danger financier, il y sera pour 2021. Quand on a envisagé ce format 5000, c'est un format qui n'est pas forcément viable au niveau économique. On est en dehors de notre modèle économique habituel, donc on sait qu'on va perdre de l'argent. Mais qu'est-ce qu'on avait comme autre option? On avait comme autre option d'attendre peut-être le mois de mars qu'on nous dise qu'on ne puisse pas faire. N'importe comment, dans ce cas de figure, on aurait aussi perdu de l'argent. Et ou sinon, qu'on nous apprenne au dernier moment qu'on puisse faire dans le format habituel avec 18 000 entrées. Je ne crois pas qu'avec notre public, on aurait quelque part eu le public qui ne soit pas sorti de cette période de convalescence. Je crois que ça aurait été très compliqué pour un grand rassemblement et pour la typologie de public que l'on a. Et puis par ailleurs, si on avait appris qu'on puisse faire au mois d'avril ou mars, on aurait quand même aussi du mal à commercialiser en 2 ou 3 mois 18 000 billets par soir. Donc dans ce cas de figure aussi, de toute façon, on perdait de l'argent. Alors autant à perdre de l'argent, autant se donner réellement la possibilité de faire. Et surtout comme objectif, pour nous, c'est vraiment qu'il se passe quelque chose en 2021 et qu'on se retrouve tous en 2022. Voilà l'objectif de l'association pour 2021, c'est se donner toutes les chances d'être tous présents en 2022. Et de préserver l'emploi, pas simplement le nôtre, mais aussi celui de toute cette filière. Voilà.
Et merci beaucoup, Alain Navarro, président de l'association RPG Trémolo. Et on parlait donc du festival Un Week-end avec elle, dont on vient d'assister à la conférence de presse de programmation. Merci beaucoup et à bientôt.
Merci, bye bye.
Pourquoi tu dis rien? Tu fais la tronche, quoi?
Comme un lundi sur Radio Albitses.
Et c'est déjà la fin de ce magazine, alors avant de se quitter, on en profite pour vous annoncer un autre événement qui aura lieu ce dimanche 20 décembre à Tanus. C'est l'association Debout les yeux qui vous propose un marché de Noël des créateurs, créatrices, artisans, producteurs et productrices locaux. Le tout évidemment dans le respect des règles sanitaires, mais aussi dans la joie et la bonne humeur. Rendez-vous donc de 10h à 18h ce dimanche à la ferme de Lacrouzier. Toutes les informations sont à retrouver sur le site deboutlesyeux.com ou bien sur la page Facebook de l'association. Pour écouter ce magazine, rendez-vous sur notre site radioalbiges.com. On vous souhaite une très bonne semaine à l'écoute de Radio Albiges et Alcop Québec.